dans le cadre d'un travail autour de la mémoire de la Shoah, de la classe de Terminale 6 du lycée Marie Curie de Strasbourg, les élèves se sont rendus au mémorial de la Shoah à Paris et au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Ils ont également suivi le parcours de 4 personnes déportées d'origine polonaise. Et c'est dans ce cadre qu'Hélène Truchot, 82 ans, enfant de déportés, a témoigné.
Je me retrouve ici sur les traces de ma jeunesse parce que j'ai fait toutes mes études à Strasbourg et j'ai habité dans le premier immeuble qui a été construit à l'Esplanade. Donc c'est quelque chose de très remuant pour moi parce que toute ma période strasbourgeoise a été vraiment une très très belle période. Et puis naturellement, la deuxième chose, c'est de me retrouver devant tout un groupe de jeunes gens, de jeunes filles qui connaissent plein de choses de ma famille. C'est un sentiment très étrange. Alors j'espère que ce moment si particulier va nous permettre un beau moment de partage.
Aujourd'hui encore, cette période et l'histoire tragique de sa famille la touche.
Oui, je suis toujours émue de parler de cette période parce que c'est vrai que j'ai une histoire tellement particulière d'avoir eu deux pères. J'en ai connu qu'un. Tous les souvenirs de mes oncles, de mes tantes, tous les gens qui m'ont aimée, parce que si je suis sortie de tout ça, telle que je suis maintenant, c'est quand même grâce à l'amour et à l'affection de tous les gens qui m'ont entourée. Parce que j'étais une petite fille toute seule avec sa maman, toute seule aussi. Et c'est l'amour, l'affection de toute la famille, de tous les gens de la famille qui m'ont vraiment sauvée, qui nous ont sauvés, maman et moi.
Issue d'une famille laïque, la famille Nejman à Belfort.
Une famille qui avait été fort nombreuse avant la guerre, qui était bien rétrécie après la guerre, qui s'était vraiment très très bien intégrée à la vie belfortaine par le sport, par le travail, par les amitiés. Je dois dire que je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu mes parents parler de quelque chose de négatif. Il y a eu bien sûr des petits moments par-ci par-là, mais c'était une famille qui s'était vraiment totalement intégrée et assimilée. Voilà.
Pour commencer son récit, Hélène pioche dans des souvenirs qui ne sont pas les siens, lorsqu'elle était enfant, cachée à Lyon, avec sa mère.
Ce sont des souvenirs qu'on m'a racontés, que maman m'a raconté, que ma grand-mère m'a raconté, que ma tante m'a raconté, vous voyez, des femmes, parce que les hommes n'étaient plus là. Je suis une enfant cachée. J'ai été cachée pendant la guerre à Lyon, grâce à une dame que j'appelle une juste, mais que malheureusement nous n'avons pas pu retrouver après la guerre. Une dame qui, sachant que maman et moi, et la sœur de maman et son fils, nous étions en grand danger, et elle nous a permis de nous cacher dans une arrière-pièce qu'elle avait dans son appartement, un appartement très modeste d'ailleurs, d'après ce qu'on m'a raconté. Et elle a pris de très grands risques en nous cachant, sachant que j'étais toute petite et mon cousin était encore plus petit que moi, il avait 1 an. Donc c'était très dangereux pour elle de cacher 2 femmes seules et 2 bébés. Parce que les bébés, évidemment, ça crie, ça pleure. Et il faut les nourrir. Et elle s'est occupée de tout ça. Et après la guerre, nous avons essayé de la retrouver. Et malheureusement, les recherches n'ont pas été fructueuses. C'était une dame qui était une réfugiée espagnole. Elle avait fui la guerre civile espagnole. Elle était venue en France se réfugier. Et on a pensé qu'elle était peut-être repartie en Espagne. Mais enfin, on n'en a jamais été très sûr.
Hélène Truchot raconte comment elle a eu 2 pères, Isser, mort en déportation, et Max, le frère d'Isser.
Mon père, Isser, a été arrêté par les Allemands sur dénonciation fin décembre 41. Et moi, je suis née le 26 janvier 42. Il a été arrêté par la Gestapo, emprisonné dans une caserne à Belfort. Il a été mis au courant de ma naissance. Maman m'a raconté qu'à partir du moment où je suis née et où elle pouvait se rendre tout près de cette caserne, grâce à la gentillesse d'un gardien, Ce gardien prévenait mon père que ma mère viendrait avec le bébé dans le landau, en bas du mur de la caserne. Et maman a toujours espéré qu'Isser avait pu nous voir depuis l'endroit où il était emprisonné. Mais elle n'a jamais su s'il nous avait vus ou pas. Ensuite, il a donc été déporté à Auschwitz, où il est mort très rapidement, puisqu'il a fait partie des jeunes, il a fait partie du premier convoi. Ce convoi n'était formé que de jeunes gens en pleine force. Donc tous ces jeunes gens, tous ces hommes qui étaient vraiment vigoureux, ont été utilisés pour construire ce qui allait être appelé les fours crématoires à Auschwitz. Ça a été des travaux extrêmement exténuants, épouvantables, et tous ces jeunes gens n'ont pas résisté très longtemps. 3 mois, je crois, après son arrivée, il est décédé. On sait à peu près à quel moment, on n'est pas sûr à 100%, mais les papiers administratifs le confirment, qu'il est mort donc au mois de juin, alors qu'il est arrivé 3 ou 4 mois plus tôt. Donc, je ne l'ai jamais connu et on m'en a beaucoup, beaucoup parlé. On a retrouvé, à la mort de maman, un livre de photographies qu'il lui avait adressé alors qu'ils étaient fiancés. On voit dans ces photos à quel point ils étaient amoureux. À l'époque, les jeunes gens et les jeunes filles, quand ils étaient amoureux, ça ne devait pas se voir, ça ne devait pas se montrer. Mais sur ces photos où ils sont pris tous les deux, on voit à quel point ils sont éperdument amoureux. Maman était une très jolie jeune femme. Et non seulement Isser était amoureux d'elle, mais son frère, Max, qui est devenu mon père, était aussi très amoureux d'elle. Et il est dit dans l'Ancien Testament, tu protégeras la veuve et l'orphelin. Si ton frère meurt, tu dois protéger sa femme et ses enfants. C'est presque surréaliste, cette histoire. Après la guerre, Max a épousé maman. Je suis devenue sa fille. Et ce qu'il faut savoir, il ne m'a jamais parlé de mon père. J'ai eu 2 sœurs après de ce deuxième mariage. Et pour ne pas que j'aie un sentiment d'être à part par rapport à mes 2 sœurs, il ne m'a jamais parlé de tout ça. Et pour la petite histoire, j'ai un fils qui s'appelle Grégoire. Et mon père m'a dit un jour, tu vois, quand je discute avec lui, parce qu'il n'était pas toujours d'accord, même pas très souvent d'accord, quand je suis avec ton fils, je sais comment il va réagir, parce que c'est le clone de mon frère. Et effectivement, physiquement, mon fils ressemble à Isser comme un clone, et il a développé des intérêts dans la vie. Par exemple, à 14-15 ans, il ne parlait que d'opéra. Eh bien, tout simplement parce que Isser, lui, était passionné par l'opéra et Victor Hugo. Pour moi, la leçon à tirer de tout ça, c'est que la vie vous met quelquefois dans des situations qui semblent terribles. Mais je crois qu'il faut rester optimiste. Je crois qu'il faut rester intègre par rapport à tout ce qui se passe autour de soi. Et puis se comporter avec bienveillance, avec respect. On ne peut qu'être souvent étonné de ce que la vie nous apporte.
Retour sur le destin de la famille Neijmann pendant la guerre.
Ma grand-mère paternelle avait été arrêtée et avec son mari, ils avaient été transférés au camp de Rivesaltes, où mon grand-père est décédé. Après le décès de mon grand-père, la direction du camp de Rivesaltes s'est rendue compte que 4 de ses fils, le plus âgé, avaient émigré aux États-Unis à l'âge de 10 ans, mais les 4 autres fils, c'était tous les 4 enrôlé dans la Légion étrangère. Ils voulaient absolument prouver leur attachement à la France et se battre pour la France qui les avait accueillis. Quand le directeur du camp de Rivesaltes a compris que ses 4 fils avaient été enrôlés dans la Légion étrangère, il a décidé, après un criblage pour être sûr qu'elle n'avait pas de lien avec des gens dangereux pour eux, ils ont décidé de la libérer. Et donc elle a été libérée du camp de Rivesaltes est emmenée à Perpignan, où une de mes tantes, Suzanne, quand elle a su qu'il était donc à Lyon, sous une fausse identité évidemment, il faut se souvenir que Lyon à l'époque était sous la coupe de Klaus Barbie, et donc elle vivait sous une fausse identité à Lyon, et quand elle a su que sa maman était libérée et l'attendait à Perpignan, elle a décidé de prendre le train et d'aller la chercher, ce qui était extrêmement dangereux. Elle devait porter l'étoile jaune, donc elle ne pouvait pas prendre le train. Et si elle prenait le train clandestinement, il pouvait lui arriver n'importe quoi. Et il s'est trouvé qu'au même moment où elle allait prendre ce train pour aller de Lyon à Perpignan, il s'est trouvé qu'un groupe de l'association sportive de la Bellefontaine descendait à Perpignan pour des manifestations sportives. Et il savait donc que ma tante, qui appartenait à cette association, se trouvait là. Bon, elle avait 15 ans à l'époque. Quand le train s'est arrêté à Lyon, venant de Belfort, elle est montée dans le train où se trouvaient tous ses copains de la Bellefontaine, et ils l'ont donc protégée jusqu'à Perpignan, où elle a retrouvé ma grand-mère, et elles sont remontées à Lyon après, toujours en train. Mais à Lyon, à l'époque, je me souviens d'une histoire que maman m'a racontée, où on voit que les gens, il y avait des gens qui vraiment faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour protéger d'autres personnes qui étaient en danger, particulièrement des Juifs. Et alors là, maman portait son étoile jaune. Elle avait pris un bus, elle s'était mise juste derrière le conducteur. Et à un moment donné, le tram s'arrête et monte à bord du bus deux messieurs habillés tout en noir, en cuir. Donc il n'y avait pas photo, c'était sûr que c'était des gens qui appartenaient à la Gestapo. Et maman avait donc son étoile jaune et il s'est arrêté un peu plus loin, à un endroit qui n'était pas un arrêt, mais il a fait un arrêt spécial. Et maman m'a toujours dit, le tram ne s'arrêtait jamais à cet endroit. Je suis sûre qu'il a vu mon étoile, il a vu les deux types qui montaient, il s'est arrêté pour que je puisse descendre. Et elle est descendue, sauve. C'est extraordinaire, parce que vous devez votre vie à quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, qui en un clin d'œil a compris, et en un clin d'œil a fait ce qu'il fallait pour vous sauver la vie. Et ça, toutes ces petites choses vécues par les personnes qui étaient en danger à cette époque-là, tous ces petits cailloux font que vous gardez beaucoup d'espoir dans le genre humain, malgré tout.
Parce que les petites histoires rejoignent la grande histoire, Hélène Truchot témoigne sans cesse sur l'histoire de sa famille. Elle reste résolument optimiste de son parcours de vie. Elle garde le meilleur et veut la transmettre aux plus jeunes qui aujourd'hui assistaient à son histoire.
Vous êtes vraiment à l'orée de ce qui sera votre vie d'adulte. Donc je vous souhaite le meilleur à tous, d'avoir une vie épanouie, en paix, avec plein de découvertes, beaucoup de joie. Et je vous remercie de m'avoir écoutée.